Où va la Syrie? 6 mois après la chute de Bachar el-Assad, l'offensive éclair qui avait mis fin à 54 ans de régime d'oppression, l'espoir d'une nouvelle page, les craintes aussi face au nouveau pouvoir mené par Ahmed el-Shara. Bonjour Ziad Majed.
Bonjour.
Politologue, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Merci d'être avec nous. D'abord, si vous le voulez bien, un mot sur Bachar el-Assad qui a fui et la Syrie le 8 décembre dernier en avion direction la Russie. Et ces derniers mois, silence radio, il n'est pas apparu en public. Comment est-ce que vous expliquez ce silence ?
Je pense que en partie, il y a les exigences de Moscou. Comme quoi il est là-bas en exil, mais il ne doit pas tenir des conférences de presse ni rencontrer publiquement des gens, d'un côté. De l'autre, je pense aussi que dans la tête des dictateurs qui avaient un pouvoir absolu, être réduit presque au néant, ça peut le perturber, ça peut aussi le pousser à vouloir pendant un moment disparaître de tout radar, de préférer rester dans son appartement de luxe à Moscou avec l'argent qu'il a réussi à sortir.
Bachar el-Assad parti, le nouvel homme fort, c'est donc Ahmed el-Shara, ancien commandant djihadiste, devenu président intérimaire de Syrie, désormais reçu par les grands dirigeants à travers le monde. Est-ce qu'il a réussi sa transformation, selon vous ?
Oui, il a réussi sa transformation dans le sens où, à la fois, il a normalisé aujourd'hui avec la plupart des pays de la région. Il est reçu dans les capitales arabes, mais également, il a rencontré Donald Trump en Arabie Saoudite. Il a rencontré Emmanuel Macron en visite officielle en France. Il est très proche des autorités turques. Il arrive à contacter tous les responsables du monde. Et donc, il y a eu une réussite à ce niveau et la levée des sanctions en est la preuve. D'autant plus que son passé djihadiste aujourd'hui est un passé assez lointain, puisqu'il avait opéré au sein du mouvement djihadiste des ruptures, qu'elles soient sincères ou pragmatiques, parfois on peut dire peu importe, puisque de toute façon il est obligé aujourd'hui, en étant le président de la Syrie, de faire avec les acteurs internationaux, de faire avec les défis de la vie politique syrienne, de la diversité syrienne. Et donc il a dans ce sens-là réussi son pari d'être accepté par la communauté internationale, par la Ligue arabe et par les acteurs régionaux qui ont une importante influence en Syrie.
Au-delà de cette respectabilité internationale nouvelle, vous commenciez à l'évoquer, ces derniers mois ont été marqués par de graves violences entre des minorités en Syrie, la communauté alaouite dont est issu le clan Assad, la communauté druze aussi, il y a également la question kurde. C'est le principal défi des autorités syriennes de fédérer aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu des massacres mars dernier contre des Alaouites dans le littoral syrien. Une commission d'enquête n'a pas encore rendu public son travail. Donc, il y a une impunité par rapport aux crimes odieux qui ont eu lieu mars dernier. Il y a le grand défi druze dans le sud du pays. Et puis, il y a un défi considérable, celui des Kurdes, qui est à la fois politique, culturel, mais aussi territorial, puisque les forces kurdes, épaulées par les Américains, contrôle toujours près de 25% du territoire syrien, là où se trouvent les principales ressources de pétrole. Donc, il doit gérer les tensions confessionnelles et les vengeances qui ont eu lieu et qui peuvent toujours avoir lieu contre des Alaouites. Il doit gérer le défi de la décentralisation et des demandes de druzes par rapport à une certaine autonomie administrative, au moins dans la zone où ils sont majoritaires dans le sud. Et puis, comment gérer la question kurde, étant donné qu'il a à la fois la pression des Turcs, qui sont opposés à toute forme d'autonomie kurde, il a la pression des Américains qui disent vouloir se retirer de cette zone, mais en échange, ils veulent être sûrs qu'un accord évitera toutes sortes de confrontations entre Shara et les forces kurdes. Donc ça, c'est aussi une question. Et puis, il y a une nouvelle occupation israélienne dans le sud du pays, puisqu'Israël, après le 8 décembre, a pris le contrôle de la zone désarmée à proximité du Golan syrien occupé depuis 1967. Et il y a toujours des raids aériens israéliens qui touchent à la fois la Syrie, mais également le Liban aussi.
Vous évoquiez tout à l'heure la levée des sanctions. C'est l'une des grandes victoires des nouvelles autorités. Mais d'après l'ONU, 90% des Syriens vivent encore sous le seuil de pauvreté. Ce chantier de la reconstruction, il va prendre du temps.
Absolument. Ça, c'est un autre énorme chantier. Toute la reconstruction économique de la Syrie n'a pas encore commencé, même s'il y a eu des accords signés pour remettre en place l'électricité, puisqu'aujourd'hui, on a 2 heures à 3 heures d'électricité seulement par jour en Syrie. Mais il y a toute l'infrastructure, à la fois par rapport à l'eau, par rapport au transport. Il y a des villes qui ont été ravagées. Et on évoque parfois à 400 milliards de dollars le coût de la reconstruction qui va prendre de longues années. Le début, c'est la levée des sanctions. Mais après, il faut trouver des investisseurs, il faut trouver de l'argent. Et il y a toute la question des réfugiés. La reconstruction va être le début aussi de peut-être de retour en masse des réfugiés, notamment ceux qui sont dans les pays voisins, Liban, Turquie, Jordanie, où plus de 80% des réfugiés syriens se retrouvent aujourd'hui.
Les grands défis de la Syrie, 6 mois après la prise du pouvoir d'Ahmed El-Sharaa. Merci beaucoup à vous, Ziad Majed.
Merci à vous.